It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonjour, bienvenue sur CNews. Cet après-midi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition, une nouvelle semaine de 90 minutes info. Les thèmes, les invités aussi pour m'accompagner, je vous les présente juste après. Ce rappel des principaux titres de l'actualité avec Somaïa Labidi.
Un abattoir clandestin démantelé à Nice hier soir. 40 moutons étaient entassés dans une pièce d'une dizaine de mètres carrés dans un appartement du quartier des Liserons. Deux personnes ont été interpellées. La mairie a missionné un éleveur pour récupérer les animaux et une plainte va être déposée dans la journée. Le chef de Wagner dans le viseur de Moscou, Evgeny Prigojine, est toujours sous le coup d'une enquête pénale pour sa rébellion avortée. Et ce, malgré l'annonce du Kremlin samedi soir d'un accord prévoyant l'abandon des poursuites. Et puis le footballeur Benjamin Mendy, rejugé pour viol et tentative de viol, même s'il a été acquitté en janvier dernier de la plupart des charges qui pesaient contre lui, reste deux affaires sur lesquelles le jury n'était pas parvenu à un verdict. Le viol d'une femme de 24 ans en octobre 2020 et une tentative de viol sur une femme de 29 ans en 2018. Deux dossiers qui vont être examinés pendant trois semaines.
Et c'est à la une en ce lundi. Emmanuel Macron de retour à Marseille. Trois jours pour faire le service après-vente de Marseille en grand. Alors les promesses pour remettre la ville sur les rails ont-elles été tenues?
Je ne viens pas ici faire des promesses. Je viens prendre des engagements en demandant. Je veux que ces promesses deviennent des faits. Parce que c'est notre devoir.
Tous les engagements pris il y a deux ans ont été tenus. Et c'est historique.
Un constat, trop d'amendes forfaitaires liées à la consommation de drogue ne sont pas réglées. Alors qu'à cela ne tienne, on va faire en sorte que le paiement soit immédiat avec des policiers munis de terminaux de paiement. L'argent liquide aussi sera bienvenu. Mais est-ce réaliste?
On va pouvoir les obliger à payer ou est-ce qu'ils auront le choix de ne pas payer? À ce moment-là, je vous le dis très clairement, ils ne paieront jamais. Et si des fois, ils peuvent éventuellement nous payer en liquide, donc il y aura des échanges d'argent en liquide. Et puis, c'est une mesure très clairement gadget, on rajoute une mission supplémentaire aux policiers.
Et pour m'accompagner cet après-midi, j'ai plaisir à accueillir Sandra Buisson et Élodie Huchard pour la rédaction CNews. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Benjamin Morel.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit constitutionnel. Merci à vous d'avoir répondu présent. Et bonjour Jean-Claude Dacier. Bonjour. Qu'est-ce qui vous impressionne à ce point? C'est le pédigré de Benjamin. Vous connaissez bien, ou alors je fais les présentations.
Je commence comme ça, c'est bien.
Comme de vieux complices, mais néanmoins, je suis toujours impressionné.
Alors, bah, ça, c'est bien, ça commence sous de bons auspices. Je vous le disais, le président est à Marseille pour l'acte 2 de Marseille en grand. Il avait promis de revenir, hein, on s'en souvient, c'était en septembre 2021. Et il ne ménage pas sa peine puisqu'il va y rester trois jours. C'est une sorte de point d'étape sur les travaux, les moyens déployés dans la deuxième ville de France pour l'amélioration des services publics au sens large. 5 milliards d'euros, ça c'est l'enveloppe globale, assez conséquente. Et il va donc enchaîner les visites sur les thématiques principales qui ont vu donc ces moyens alloués. On va les détailler ensemble dans un instant. Sandra Buisson. Bonjour, c'est vous qui avez écouté le président s'exprimer devant les policiers. Hein, c'était sa première allocution depuis son arrivée ce matin. Ça a commencé avec une visite à l'hôtel de ville. Il a été reçu par Benoît Payan. Ensuite, l'évêché avec les policiers. Puis cette prison des Baumettes, enfin ce site qui va voir le jour et où de nouvelles places vont émerger. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces 10-15 minutes de présentation devant les policiers?
Alors le chef de l'État est venu faire non pas le service après-vente mais le suivi de ce qu'il avait annoncé fin 2021 puisque notamment sur le plan sécuritaire il avait annoncé 300 policiers de sécurité publique en plus et qui ont à l'heure actuelle effectivement pris leurs fonctions à Marseille. Le président annonce pour novembre la création d'une CRS à l'image de la CRS 8, donc une super CRS spécialisée notamment dans les violences urbaines et pour intensifier la lutte contre la criminalité organisée et plus précisément celle spécialisée dans le trafic de stupéfiants qui gangrène les quartiers de Marseille. Il confirme l'arrivée d'enquêteurs supplémentaires, donc 25 de plus annoncés pour le mois de septembre pour la division criminelle et la brigade de répression du banditisme. 4 enquêteurs de plus sur le volet cyber, c'est-à-dire pour lutter contre la vente de drogue sur les réseaux. 10 techniciens de plus pour la police technique et scientifique, avec un chèque de 275 000 euros supplémentaires pour l'achat de matériel. Et puis, autre annonce, la création d'une task force interministérielle pour, je cite, lutter contre les caïds. Ils travailleront de concert, la douane, le fisc, l'APJ et l'URSSAF. Et enfin, il a fait le point sur le renforcement de la sécurisation du port de Marseille. Le tout vient en complément de son annonce visant les consommateurs de stupéfiants, puisqu'il a fortement insisté là-dessus au début de son discours, avec la possibilité dès la fin de l'été pour les agents de police et de gendarmerie de se faire payer les amendes forfaitaires, c'est-à-dire que le consommateur qui aura pris une amende forfaitaire pourra la payer sur le champ, soit avec un TPE, ils seront équipés d'un TPE, ou en cash, ce qui ne manque pas de faire bondir les représentants syndicaux.
Alors, on va évidemment décliner tous ces thèmes, parce que là, vous nous avez fait un panorama. Je vous vois sourire, Benjamin Morel. Est-ce que ça vous paraît, à l'échelle de Marseille, quand même la deuxième ville de France, 330 policiers, une super CRS, un commissariat, c'est déjà assez conséquent?
Alors, si je souriais, c'était sur la question des TPE et du paiement des amendes forfaitaires. Là, en effet...
On peut commencer avec ça, si vous voulez.
C'est... Ça pose un certain nombre de questions à la fois en termes de sécurité des policiers, puis même je dirais de banalisation de cette situation, parce qu'en réalité, ça fait très contrôleur SNCF, hein. C'est-à-dire que vous avez fraudé, et donc à partir de là, ne vous inquiétez pas, vous allez payer l'amende et tout ira bien. Donc il y a malgré tout une forme de banalisation par rapport au message envoyé, qui est un message de vraie lutte contre la drogue. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait évident, même si la question du recouvrement des amendes, etc., c'est en effet un problème qui se pose. Ensuite, sur Marseille en grand, je crois que là-dessus, il faut rendre quand même Emmanuel Macron ce qu'était Emmanuel Macron. La politique qui a été menée lorsqu'elle a été envisagée il y a 2 ans, on peut discuter de la concrétisation, mais était tout de même relativement ambitieuse et appuyée sur plusieurs leviers qui étaient des leviers essentiels. Si on se concentre uniquement sur le sujet sécuritaire, il y a en effet des choses qui ont été avancées et bien décrites. Après, je ne suis pas sûr que isoler le cas marseillais à la fois de la région de manière plus large et ensuite des problématiques qui se posent en France soit réellement, réellement quelque chose d'efficace. Évidemment, il y a un microcosme marseillais, mais ça rentre dans une dérégulation plus large. Et au niveau du trafic de drogue, la question des frontières, de la porosité des frontières au trafic, fait que, bon an, mal an, lorsque vous avez un marché, une porosité des frontières et des consommateurs, la drogue trouve son chemin.
Alors certes, la loupe, l'accent est mis sur Marseille, mais il a toujours assumé, Jean-Claude Dacier, de faire en sorte ou de dire que Marseille est une sorte de laboratoire de ce qui pouvait après se faire ailleurs à plus grande échelle, parce que ça suppose un certain nombre de moyens, on ne peut pas les reproduire à l'infini partout.
Le simple fait qu'il y reste 3 jours est, je crois, sans précédent. Il y prend même, me semble-t-il, quelques risques, parce que Marseille est une ville compliquée, politiquement compliquée, socialement compliquée, et le trafic de drogue est une espèce de... Je ne voudrais pas être désagréable avec mes amis marseillais, mais une espèce d'institution. Il y a plus de 20 morts, 22, 23, je ne sais plus, depuis le début de l'année. Ouais. J'entendais ça tout à l'heure, il y a 800, 850 arrestations de trafiquants, des petits, des moyens et des gros, surtout des moyens. Donc c'est un challenge sur le problème de la délinquance, largement issu de la drogue. C'est un challenge, je ne dirais pas qu'il joue l'avenir du macronisme, mais enfin, très concrètement, il y va, il mouille sa chemise, il dit « je vais vous donner les moyens » et il faut souhaiter que les résultats suivent dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an. Après, on parlera de la santé, on parlera de l'éducation nationale où ils refont les écoles. gros effort à Marseille avec un maire, M. Payan, à qui j'accorderais, si je faisais de la politique, une confiance limitée. Parce que là, il lui a préparé un accueil qui était quand même contrasté, avec des portes fermées alors qu'elles auraient dû être ouvertes pour préparer le voyage. Enfin, ça ne s'est pas très bien passé. Puis là, on a vu les images d'un Benoît Payan très souriant, Monsieur le Président, etc. C'est un vrai socialiste, c'est un vrai militant socialiste qui sait s'y prendre. Il a envie que tout le bénéfice ne revienne pas au Président de la République. De temps en temps, il faudrait quand même qu'on rappelle que c'est lui le patron, c'est lui le maire, et que c'est lui à qui on devra une amélioration éventuelle. Et là, j'ai fini, et il a dans les jambes, si j'ose dire, un muselier qui est à la tête du conseil régional, oui. Ça marche pas mal. Il a une Martine Vassal qui est aussi de droite et qui est au conseil départemental, grand métropole. C'est pas simple, Mais c'est pas simple non plus pour le président, qui, me semble-t-il, prend un certain risque. Mais après tout, il est payé pour ça.
Alors, est-ce qu'il y a un risque politique, pour reprendre l'expression de Jean-Claude, Élodie Huchard, et globalement, effectivement, cette visite, elle est particulièrement longue. La première fois, quand même, il avait fait durer le plaisir aussi. Hein.
Oui, mais là, ce que nous dit l'Élysée, et l'Élysée insiste beaucoup là-dessus, c'est que c'est une visite inédite. Jamais un président de la République n'aura passé 3 jours à Marseille. On sait aussi les liens particuliers qui unissent Emmanuel Macron et Marseille, grand supporter de l'OM. Ils disent souvent que c'est sa ville de cœur. Alors forcément, le risque, c'est qu'on nous explique que 90% des engagements ont été tenus. Il y a sans doute des améliorations. Il y a eu des renforts dans un certain nombre de domaines. Il y a aussi beaucoup de travaux qui ont été initiés, notamment là plutôt sur les séquences logement, école, rénovation urbaine, etc., qui prennent plus de temps de prévu. Et ça, on a l'impression qu'ils ne l'avaient pas anticipé, alors qu'on sait bien que sur du bâti aussi ancien, c'est toujours très long. Le principal risque politique, c'est de se retrouver confronté à des Marseillais qui, on peut très bien reconnaître que des efforts et que des moyens financiers, on le disait, c'est un plan de 5 milliards, mais avec toutes les collectivités territoriales qui ont été derrière, en tout, c'est 15 milliards en fait, qui sont mis sur Marseille. C'est une somme sans précédent. Mais il faut des résultats. Et pour ceux qui habitent notamment dans ces quartiers nord dont on parle souvent, eh bien, pour ceux qui n'ont rien demandé, pour ceux qui vivent avec ces délinquants-là, régulièrement, Emmanuel Macron s'est fait interpeller là-dessus. Et puis, vous le disiez aussi, justement, c'est une... politiquement, c'est compliqué parce que Benoît Payan, on sait que par exemple sur la vidéoprotection, il y va franchement à reculons et qu'il y a d'un côté effectivement Renaud Muselier, Martine Vassal qui gèrent le département, la région, et de l'autre Benoît Payan. Et donc, on voit quand même qu'il y a des petites frictions. Et comme vous le disiez, Benoît Payan, d'un côté, il est très content que le chef de l'État mette autant de moyens. D'un autre, ce n'est pas son bilan à lui, ça, et il a envie un peu de tirer la couverture à lui.
Il y a toujours effectivement des rivalités, et puis ça a toujours été le cas.
Mais là, il fait fort quand même, Macron, 3 jours sur place, 15 milliards qui viennent s'ajouter aux 5 de 2021. Donc,
les 15, c'est le global. Hein.
Ah, c'est l'enveloppe. Oui, c'est l'enveloppe.
Pardon, c'est erreur. Donc ça fait 15 milliards au total, c'est beaucoup de sous quand même.
Alors, tandis qu'on se parle, vous voyez peut-être ces images, une image qui bouge un peu, mais enfin c'est la deuxième séquence de la journée, il est à la cité des Campaniles, il poursuit donc ses rencontres, Emmanuel Macron, ça ne fait que commencer, on le rappelle. J'aimerais qu'on parle de l'aspect sécuritaire avec un de nos invités à distance, c'est Bruno Bartocchetti, porte-parole d'Unité SGP Sud. Bonjour Monsieur Bartocchetti, merci de nous rejoindre. J'aimerais qu'on en vienne peut-être au détail de ce qu'il a dit tout à l'heure. Tout d'abord, sur les effectifs, sur le commissariat, sur les moyens directs qui sont alloués, est-ce que ça vous paraît être à la hauteur de l'ambition ou on prend un petit peu le problème à l'envers aujourd'hui ?
Alors, si vous voulez, ce qui était intéressant, c'est les renforts que nous avons eus à raison de 300 effectifs, mais nous avions beaucoup de retard. Donc c'est très important de donner un souffle, bien sûr, aux policiers de travailler déjà en sécurité, c'est-à-dire d'avoir des effectifs nécessaires pour pouvoir équiper nos véhicules dans de bonnes conditions. Ensuite, renforcer les enquêteurs pour travailler, et ça a été dit également, mais c'est qu'un début, il faut aller beaucoup plus loin. On parle souvent de la PJ, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup très difficile. Mais vous avez des enquêteurs dans tous les arrondissements de Marseille qui sont à bout de souffle parce qu'il manque de moyens pour travailler. Donc, si vous voulez, tout ce problème-là est récurrent. Même si on a eu des renforts, on a ces 10 dernières années perdu beaucoup plus d'effectifs que 300, je peux vous l'assurer. Donc, on revient tout doucement à un niveau zéro, espérant que les efforts vont continuer. On a besoin de continuer ces efforts pour pouvoir travailler normalement. On ne peut pas se rassurer en se disant, voilà, on a quelques effectifs qui vont arriver en septembre, puisque nous en avons quand même peut-être autant qui partent à la retraite ou dans d'autres lieux, d'autres destinations. Donc il va falloir continuer ces efforts pour pouvoir travailler. Et là, j'insiste bien sur les policiers qui vont équiper les véhicules et patrouiller. Ce sera surtout pour sécuriser la population. Je répète très souvent, c'est pas ainsi qu'on va en tout cas enrayer les problèmes de stupéfiants à Marseille. Ça va être pour sécuriser la police.
Ce qu'on comprend, c'est que c'est pas tant un renforcement qu'une remise à niveau, comme vous dites. Et puis, ce sera plutôt une présence qui consiste à remettre un peu de liant et à sécuriser, mais pas à lutter contre les points de deal à proprement parler, quoi.
Disons que, bien sûr qu'on va les gêner considérablement, on va travailler aussi, le policier n'est pas là que pour faire de la présence et rassurer la population, bien sûr qu'on va travailler sur des points de deal, mais pour démanteler des réseaux sur du long terme, parce qu'un point de deal qui tombe, c'est un autre qui naît presque aussitôt, là il va falloir se donner les moyens juridiques, bien sûr, la police se présente dans les quartiers pour gêner considérablement les points de deal, c'est vrai que ça a montré son efficacité, c'est vrai qu'on doit sécuriser la population, et après si je dois élargir le débat, j'aimerais j'aimerais dire que tout ne doit pas reposer sur les épaules de la police. Il y a des plans d'urbanisation, vous savez, qui doivent être mis en place. Et puis, vous savez, Marseille aussi a sa part de responsabilité dans la sécurité. Je pense à nos élus. Certains sont frileux sur les vidéos de surveillance. Or, Marseille est très, très étendue, deux fois plus étendue que Paris, par exemple. Et c'est là où on doit se donner les moyens en câblage, en vidéosurveillance, pour justement donner des outils supplémentaires aux enquêteurs de travailler sur ces réseaux de stupes. Donc, il y a tout un maillage qui doit être fait entre les élus, la municipalité, même si on a commencé déjà à travailler là-dessus, et la police nationale. Tout ne doit pas être sur les épaules de la police nationale. Il y a la police municipale aussi qui doit être présente. Elle le fait sérieusement, son travail. Vous voyez, il y a tout ce maillage et c'est ce qui est important de retenir à mon sens.
Alors, vous avez entendu peut-être Sandra Buisson tout à l'heure qui disait, on l'a tous noté, il y a une levée de bouclier des syndicats, enfin, ça grinçait quand même des dents, à l'idée de faire payer immédiatement les fameuses amendes forfaitaires pour les consommateurs, avec cette idée que voilà, 5000 agents seront munis d'un terminal de paiement ou alors le cash sera bienvenu. Est-ce que vous diriez, c'est pour ça que je citais Rudy Mana tout à l'heure comme lui, que c'est une sorte de gadget ?
Alors, déjà, on sait que s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait peut-être pas autant de trafiquants. Bon, maintenant, encore une fois, ça confirme finalement mes propos. Sans parler de gadgets, nous ne sommes pas des agents du Trésor public, hein, donc pour recouvrir les amendes forfaitaires. Donc c'est vrai que ça va être une responsabilité. Comment ça va se passer dans nos rangs lorsque, en face de nous, nous allons avoir un paiement en argent en espèces, quelqu'un va nous brandir un chèque. À un moment donné, nous sommes des flics de terrain, nous sommes conscients qu'on doit aussi gêner les consommateurs, mais ça nous met une sacrée responsabilité supplémentaire sur les épaules avec ses terminaux et ses moyens de paiement et toutes les suspicions qu'il va y avoir. Hein. Alors on va encaisser de l'argent en espèces, je peux vous garantir que c'est quand même une sacrée responsabilité et nous allons remettre cet argent. Mais enfin voilà, on va devenir des transporteurs de fonds en plus d'être des agents du Trésor public. C'est ça qui est très gênant. Maintenant, on est conscient qu'on va avec ces terminaux gêner les consommateurs. Mais il va falloir aller vraiment plus loin avec d'autres moyens que ceci. Oui. Ceci reste. Si vous voulez sans parler de gadgets, ça reste très secondaire dans la lutte contre les stupéfiants.
Entendu. On comprend votre message. Vous restez avec nous. On va continuer cette discussion en plateau. C'est vrai que Sandra, ça fait grincer des dents parce qu'on se dit, au fond, il y a une forme de déconnexion par rapport à la réalité de la difficulté sur le terrain. Ils n'ont pas que ça à faire, en fait.
Alors, déjà, ce n'est pas leur boulot d'encaisser de l'argent.
C'est vrai.
De deux, techniquement, comment va faire un policier ? Alors, effectivement, il y a STPE. Donc, limite, si c'est en carte, ça sera plus simple. Mais sinon, si c'est en espèces, ils font quoi, les agents ? Ils se trimballent toute la journée avec de l'espèce dans les poches. C'est leur mettre une deuxième cible dans le dos, surtout dans des quartiers difficiles. Combien auront-ils d'argent dans les poches quand il dit qu'ils seront des transporteurs de fonds ?
On va faire catiser la convoitise.
C'est effectivement un risque. L'autre risque, c'est que le recouvrement ne se fasse pas plus vite, puisque ceux qui ne veulent pas payer, ils paieront pas sur le champ. Il y a 35% au national des amendes forfaitaires qui sont effectivement payées, et c'est encore moins à Marseille.
C'est 20, hein.
Et la possibilité de payer sur le champ ne va pas arranger les c'est choses. Sûr. Ceux qui ne veulent pas payer, ils ne le feront pas
c'est
immédiatement.
C'est pas une question pratique. Ils se disent pas, oh là là, c'est compliqué d'aller sur Internet, le télépaiement, 45 jours, je repousse les
choses. Numérique.
Ouais. Et ensuite, il y a la contrainte du transport. Donc effectivement, faut emmener tout ça, l'argent. Enfin, voyez comment les transporteurs de fonds.
Comment est venue cette idée, en fait ? On sait un petit peu, on connaît un peu les dessous de cette nouvelle grande idée ?
Mais en fait, c'est un peu une erreur de communication, et encore un peu, peut-être beaucoup d'ailleurs, parce qu'on attend des annonces qui vont avoir lieu pendant 3 jours. Et la première qui est faite en amont du déplacement, certes, par le chef de l'État, c'est celle-là. Alors, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que mieux recouvrir les amendes, c'est une bonne chose. En revanche, il nous dit dans l'interview à La Provence à quel point il a un plan ambitieux, à quel point il faut faire plus. Et en fait, cette annonce, alors d'un côté, elle semble, c'est un peu les petites annonces gadgets, un peu pratiques à mettre en, enfin pratiques, Sandra le rappelait, mais qui semblent, dans la tête de ceux qui les pensent, très pratiques à mettre en place, en se disant ça, c'est pas compliqué, on aura des effets rapidement. Et en même temps, quand on voit l'ampleur du trafic de drogue à Marseille, est-ce que véritablement... Que les policiers se prennent pour des banquiers, qu'on leur rajoute ça quand ils sont face à des personnes qui déjà les menacent. En plus, si on dirait excuse-moi, mais en plus, tu me dois 135 euros ou plus, c'est hyper compliqué. Et on voit bien que ça part mal parce que du coup, tout le monde, et même dans les témoignages qu'on a entendus ce matin des syndicats de police ou des riverains, etc., ils expliquent en fait quel est le rapport avec la visite.
Et oui.
C'est vraiment bien en dessous de ce qu'on attend.
Jean-Claude, puis Bruno Bartocchetti.
J'ai juste un mot à dire. Qui a 150 euros dans sa poche ? Surtout en sortant de boîte de nuit, vous connaissez beaucoup de gens qui ont 150 euros dans leur poche. Donc ils vont dire non, mais les cartes de crédit, je n'en ai pas.
Ou alors c'est l'argent du deal.
Donc j'ai... Alors c'est l'argent du deal.
On peut les escorter. On peut les escorter.
Dans quel cas, c'est pas grand-chose. Si c'est 150 euros par rapport à 15 ou 20 000 dans la journée, c'est rien. Et le gars qui vient se faire une petite dose, d'abord il va falloir le prouver, donc il va falloir souffler ou faire je ne sais quoi. Et ensuite, vous savez, moi j'ai rarement 150 euros dans ma poche.
Bruno Bartocchetti, vous souhaitiez également réagir aussi.
Voilà, est-ce que
vous considérez, Bruno Bartocchetti, que les policiers, comme le disait Sandra, vont devenir une cible? Vous avez utilisé l'expression convoyeur de fonds, mais du coup, oui, ça en fait des cibles pour attiser la convoitise.
Oui, complètement. J'ai parlé de transporteurs de fonds, agents du Trésor public. À partir du moment, comme ça a été dit par Sandra, on a de l'argent dans les poches, c'est une responsabilité supplémentaire. J'ajouterai également que sanctionner un consommateur, pourquoi pas, on est là pour appliquer les textes. Encore une fois, j'insiste bien, dans ces conditions, c'est un peu difficile, c'est pas de notre ressort. Mais imaginons que nous tombions sur le vrai consommateur, parce que vous avez des consommateurs en fait qui se déguisent derrière quelques grammes de shit et qui sont finalement des dealers. Mais prenons le consommateur malhonnête, on va dire, d'avoir acheté du shit, mais qui va finalement s'acquitter de son amende, bien il paiera cash. On est d'accord, il a sa carte bleue, il paye. Seulement, ce qu'on aimerait aussi avoir en parallèle, c'est le primo-délinquant en matière de stup, hein, qui est traduit devant la justice et qui prend 3 mois avec sursis. Alors, lui, il se sentira bien sûr impuni parce qu'il n'en a rien à foutre d'avoir un rappel à la loi ou 3 mois avec sursis. En revanche, le consommateur, lui, ce sera cash. Donc, si vous voulez, il y a quand même des degrés en matière de sanctions qui vont échapper. Nous, ça ne va peut-être pas nous échapper parce qu'on sait qu'on connaît les rouages, mais ça va quand même échapper à certains consommateurs qui vont payer finalement beaucoup plus cher que le dealer.
Merci beaucoup pour vos commentaires, Bruno Bartocchetti. Benjamin Morel, il y a aussi la gauche, à gauche, plusieurs personnalités qui ont tweeté sur ces questions en disant, au fond, ça ne sert à rien parce que tout ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est légaliser le cannabis.
Qu'est-ce c'est un débat qu'on peut avoir, hein, parce que je parle sous le
contrôle
de mes voisins.
C'est un débat à ouvrir de toute façon.
Oui, c'est un débat à ouvrir. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire ou qu'il ne faut pas le faire, mais il faut voir.
Voilà, par exemple, Éric Coquerel, mais... il y avait aussi Julien Bayou, pour n'en citer que deux.
Le trafic de cannabis, c'est 7 millions de chiffres d'affaires par an. Vous avez des armes d'un côté qui viennent d'Europe de l'Est, de l'autre côté, vous avez assez de consommateurs. Forcément, voulez-vous juguler ça? Comment le voulez-vous? Soit vous arrivez à avoir une vraie imperméabilité des frontières, mais ça implique un bras de fer, notamment avec le Maroc. C'est pas sûr qu'on aille sur ce point-là. Oui. Et de l'autre côté, ça mobilise des effectifs policiers qui sont extrêmement importants et qu'on pourra réinvestir sur les drogues dures. On tolère, en réalité, voire même, aujourd'hui, on n'en fait plus que tolérer, parce qu'encore une fois, ça fait très contrôleur SNCF de faire payer les amendes par terminal. Donc, ce faisant, on est dans une forme d'hypocrisie. Est-ce que l'argent qui serait l'argent qu'on récupérait sur les taxes ne pourrait pas mieux servir sur la prévention? Peut-être, peut-être pas. Peut-être enverrons-t-on également un mauvais signal. Mais je crois qu'à ce stade, eh bien, le débat mérite d'être posé, et pas de manière idéologique entre d'un côté les laxistes et de l'autre les sécuritaires. On voit qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça.
Et une question qui se poserait aussi et qu'on aborde rarement quand on parle de cette théorie-là, c'est et donc le cannabis viendrait d'où? Et donc, est-ce qu'il faudrait que l'État viabilise certaines productions de cannabis qui viennent de l'étranger? Donc ça ferait une filière légale de production, parce qu'en fait, ou alors il faudrait produire sur notre territoire et l'État validerait une production de cannabis. Vous voyez, il y a des questions derrière qui se posent et qu'on aborde.
C'est-à-dire qu'il y aurait tout un écosystème à créer de toutes pièces, mais ça règle pas.
À mon avis, un système qui ne pose pas uniquement à cause et à propos de la drogue, c'est la non-exécution des petites peines. Des petites condamnations, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 6 mois, personne ne va jamais en prison pour cela. Et je pense que le président de la République aurait répondu davantage aux souhaits d'une immense majorité des Français en annonçant un accroissement des peines de prison parce que...
Le problème, ce n'est pas les peines, c'est les places de prison. Mmh.
Mais c'est ce que je voulais dire. Et ma langue a fourché.
Non, mais... qui continue à mener...
Je suis d'accord, mais croyez-moi, quand vous avez fait 6 mois... Dans une prison, merci. Vous réfléchissez à la suite. C'est un problème, on ne sera pas d'accord là-dessus.
Allez, merci, on va
s'arrêter. Je crois, moi.
Est-ce qu'en prison, merci, on vous coupe du trafic?
On va s'interrompre.
Je pense qu'on peut quand même.
On va s'interrompre quelques minutes et puis on reviendra pour parler. On va revenir bien sûr à Marseille. On continue avec d'autres problématiques, puisqu'il y a le logement, l'éducation. Enfin, il a beaucoup de choses hein, à son agenda, à son menu, Emmanuel Macron, pendant ces trois jours. Mais on parlera aussi de cette audience. C'est important parce que ça devait débuter à 14h devant le Conseil d'État, à la demande d'un collectif de footballeuses qui demande à jouer voilées en compétition. Ça pourrait effectivement faire jurisprudence et changer la donne pour les compétitions à venir. À tout à l'heure. Nous sommes de retour avant de reprendre le débat qui porte aujourd'hui sur la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Le journal, il en est question, j'imagine, aussi avec vous, Mickaël Dorian.
Absolument. Bonjour Nelly, bonjour à tous. Emmanuel Macron lance l'acte 2 de son plan Marseille en grand, une visite de trois jours qui a commencé ce matin par l'hôtel de ville de Marseille, puis par la prison des Baumettes. Emmanuel Macron qui vient maintenant d'arriver dans une cité marseillaise. Il s'agit de la cité des Campanules, où les habitants se mobilisent contre le trafic de drogue. Le chef de l'État, vous le voyez, est en train d'échanger avec certains d'entre eux. Dans l'actualité également, le ras-le-bol des riverains dans le 12e arrondissement de Paris. Nos équipes sont retournées place Henri Freinet, près de la gare de Lyon, où l'insécurité est présente en raison notamment des distributions quotidiennes de nourriture. Et si depuis quelques jours la situation semble s'améliorer, l'inquiétude reste présente. Corentin Brio, Sarah Fenzari.
Il y a trois semaines, nos équipes recueillaient images et témoignages de riverains à bout de la situation autour de la place Henri Freinet dans le 12e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, les nuisances quotidiennes sont de moins en moins présentes. Depuis quelques jours, tous sont témoins d'améliorations face au climat d'insécurité des environs. Moins de rixes, notamment la nuit grâce à des contrôles de police renforcés.
Effectivement, quand il y a des bagarres, la police arrive rapidement sur la place.
Alors qu'avant, c'était pas le cas.
Non, ils titillent un peu. Maintenant, ils sont vraiment là. On sent vraiment leur présence.
Reste à régler la question des distributions alimentaires. Elles attirent sur la place beaucoup de monde et donc beaucoup de nuisances.
En fait, le souci, c'est que la police fait tout son possible. Et malheureusement, les distributions alimentaires les ramènent, les gens qu'ils ont réussi à évincer. Donc ça, c'est un cercle vicieux, ils viennent, ils les font partir. Et puis de l'autre côté, l'arrivée des distributions alimentaires les fait revenir.
Si les riverains ne veulent pas interdire ces distributions qui durent depuis 2 ans, ils souhaitent un arrêté préfectoral pour la déplacer dans une rue voisine où il n'y a que des bureaux. Problème, ils ont besoin d'eau et d'électricité pour assurer le service, des moyens dont la rue ne dispose pas, contrairement à la place que les maraudes occupent actuellement.
À l'étranger, à présent, la ville de Montréal, au Canada, est actuellement recouverte d'une épaisse fumée en raison des feux de forêt toujours actifs dans le pays. Une fumée âcre qui rend l'air irrespirable et qui fait de Montréal la ville la plus polluée au monde. Des fumées qui pourraient atteindre la France dès ce début de semaine, comme nous l'explique notre experte météo Alexandra Blanc.
Le vent tourne à l'ouest et donc conséquence, petit à petit, eh bien, ces fumées des incendies aux États-Unis vont se diriger en direction de l'Europe, plus particulièrement de la France, de l'Angleterre ou encore de l'Irlande. Vous le voyez avec donc ce courant de jet, on va le voir sur l'image précédente, ce courant de jet qui va donc concerner les régions de l'ouest, principalement en France, avec, vous le voyez, donc les fumées des incendies qui se dirigent du Canada en direction de l'Europe. Alors concrètement, est-ce que ça va être vraiment visible en France? La réponse, c'est oui et non. On aura seulement un ciel légèrement laiteux, légèrement voilé, puisque les fumées devraient rester à très haute altitude.
Allez, tout de suite, la chronique sport et du basket avec une mauvaise nouvelle pour les Bleus.
Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
C'est une nouvelle qui va ravir les fans de sa nouvelle franchise, mais certainement pas ceux de l'équipe de France. Victor Wembanyama, la nouvelle star des San Antonio Spurs, a pris la décision de ne pas participer à la Coupe du Monde qui aura lieu du 25 août au 10 septembre en Indonésie et aux Philippines. Il évoque, chez nos confrères de l'équipe, une décision difficile mais irrévocable afin de préparer au mieux, pendant l'été, sa première saison en NBA. Tout juste drafté en première position par les Spurs, Victor Wembanyama ne fera donc pas partie de la liste que Vincent Collet annoncera mercredi et il faudra probablement attendre 2024 pour revoir la nouvelle star du basket français sous le maillot bleu.
Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
Et voilà, c'est donc la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. L'actualité continue en compagnie de Nelly Denac et de ses invités. C'est la suite de 90 minutes info.
Merci beaucoup, cher Michael. Et retour à Marseille en images avec un Emmanuel Macron qui est donc arrivé ce matin dans la cité phocéenne. Il a prévu d'y rester jusqu'à mercredi compris. Et vous le voyez, il est à la rencontre d'habitants de la cité des Campanules. On va peut-être écouter quelques instants cet échange, cette déambulation.
Tout de suite, on va être plus dur, on va renforcer, mais c'est une responsabilité. Tout le monde doit être responsable.
Ce sont des annonces, on le sait, les habitants attendent beaucoup de votre venue, surtout dans les quartiers nord. 23 décès sur fond de trafic
exactement, depuis le début, depuis de début d'année.
Des jeunes, parfois des très jeunes, des mamans, des victimes collatérales.
80% liés aux stupéfiants.
Exactement. C'est quoi la réponse concrète?
La réponse, c'est celle qu'on mène depuis deux ans. Hein. On a plus de 300 postes de policiers, on a remis de la police scientifique, de la police judiciaire, justement de la réponse pénale aussi. Et pourquoi il y a ça? Parce qu'on démantèle ces trafics. Il y a 70 points de deal qui ont été supprimés, 70. C'est un peu plus de 40% des points de deal existants. Donc on va continuer ce boulot de pilonnage. Et à côté de ça, on démantèle des réseaux qui sont souvent internationaux, hein, qui sont dans d'autres rives de la Méditerranée pour leur épicentre. Et à côté de ça, il faut renforcer la prévention aussi. Donc dès la rentrée, il y aura 50 collèges et lycées. On va détecter les plus jeunes qui peuvent tomber, parce qu'au fond, c'est d'un cynisme complet. C'est les plus jeunes qu'on va chercher pour faire guetteurs ou autres, qu'on exploite totalement et qui après sont sacrifiés. Donc c'est de la prévention, de la réponse policière, de la réponse pénale, du démantèlement international. Et moi j'y ajoute la responsabilité de toutes les consommatrices et les consommateurs. C'est quand vous consommez, ben vous légitimez ces trafics et vous nourrissez des gens qui font tuer nos jeunes.
Merci beaucoup. Pardonnez-moi, Monsieur le Président.
Oui.
Impatient.
Oui.
Une photo.
Pardon.
Monsieur le Président.
Bah, je suis d'abord. Je suis.
Que ça n'avance pas.
Non, parce que je trouve qu'on a déployé nos moyens. Après, je pense que vous voyez qu'il y a une attente. Et nos compatriotes veulent que la vie change. Et donc, il est légitime que dès qu'on a le sentiment qu'on perd du temps, on remette de la pression. Voilà. Donc, c'est un collectif. En tout cas, moi, je tenais à dire que l'État a mis les moyens, que ce que je me suis engagé à faire il y a deux ans en matière de force de sécurité, d'investissement, non seulement c'est là, mais on le renforce. Et on va continuer de le renforcer. Et il faut qu'on bat. Maintenant, on est engagé sur les écoles. Il n'y a pas une ville en France où on contribue à rénover 182 écoles. Et donc là, on va les maintenant accélérer. Il faut passer en production. J'ai vu le maire ce matin dès mon arrivée. Et il faut que, avec l'ensemble des collectivités, on le fasse. Et vous savez, il y a deux ans, tout était quasiment à l'arrêt. Les collectivités travaillaient très peu entre elles. On avait un plan de mobilité, enfin des déplacements et transports en commun qui avaient pris beaucoup de retard. Tout ça est quand même redémarré avec des échéances qui vont voir le jour dès 2024. Donc ça avance. Je ne fais pas de commentaires de politique internationale, nationale, en tout cas, pas là. Trouver un moment ad hoc. Vous allez bien? Merci à vous. Allez-y.
Monsieur le Président.
Voilà cet exercice qu'Emmanuel Macron apprécie particulièrement. Hein. Il aime toujours aller au contact. Ça fait quelques temps qu'on ne l'avait pas vu ainsi. Élodie Huchard. Et là, il est encore donc sur ces problématiques parce qu'il rencontre aujourd'hui des mères de famille qui sont engagées précisément dans la lutte contre la criminalité, contre l'insécurité. On a vu aussi certaines d'entre elles s'illustrer en tenant des immeubles et en repoussant des dealers. Et on le rappelle, le bilan, il est terrible en termes de criminalité. Il y a eu 23 homicides depuis début 2023 quand même. Hein.
Oui, en fait, il se confronte quelque part au réel. C'est-à-dire que là, il est face à des personnes qui concrètement peuvent lui dire oui ou non, cet argent injecté, il sert à quelque chose. Et comme on le disait tout à l'heure, oui, l'argent sert parfois à rénover des bâtiments, etc. Mais pour les habitants de ces quartiers-là, pour ces mamans dont vous parlez, qui sont obligées de faire un peu régner la loi elles-mêmes comme elles le peuvent, cet argent n'est pas encore arrivé jusqu'à elles. Parce que comme on le disait, il y a presque un paradoxe entre mettre 15 milliards au total sur une ville d'aide en plus, c'est énorme, plus le budget de la ville. Évidemment, on peut faire de grandes choses, mais le trafic de drogue, le président de la République, de 70 points de deal qui ont été démantelés. Oui, c'est très bien, mais ils ont été démantelés, souvent pour se former ailleurs, et d'ailleurs pas forcément à Marseille, parce qu'on l'a vu aussi dans d'autres villes maintenant, des Bouches-du-Rhône ou des départements alentours. Et puis, surtout, ce n'est pas ces petits points de deal en fait, qui vont changer grand-chose. C'est une fois de plus, faut s'attaquer aux grands barons de la drogue. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. L'État, d'ailleurs, on n'a pas forcément les moyens tout seul.
Alors regardez, là, sur cette image, il va vraiment à la rencontre des habitants, puisqu'il il vient de s'engouffrer dans cet immeuble. Bon, on a perdu l'image entre-temps, mais
voilà, dans cet immeuble, avec sa chemise blanche, on le reconnaît pas trop mal, Emmanuel Macron, il est entré à l'intérieur pour rencontrer... ils sont pas sortis.
Non, pour rencontrer les habitants.
Non, mais est-ce que ça vous paraît convaincant, cette prise de parole comme ça d'Emmanuel Macron?
Écoutez, qui je sais pas
c'est
si
toujours
c'est
la pédagogie.
Non,
hein.
Être en contact des Français, c'est jamais totalement inutile. Je crois que Marseille, hélas, je dirais pas que c'est la cité de la drogue, mais elle y occupe une place considérable, très importante. Et le combat va durer des années. Des années. Mais il faut rien lâcher. Les consommateurs, faire payer. J'en doute un peu et je doute un peu de l'efficacité de la mesure.
Ça me donc, ce n'est pas 330
gadget,
policiers
autre
qui
chose.
Vont changer la dose.
Pas trop. On verra s'il est tort, tant mieux. Mais en revanche, la place des trafiquants, la place de la drogue dans l'économie marseillaise. Il y a même maintenant, j'entendais ça tout à l'heure, des gamins de moins de 20 ans qui sont tueurs à gages, qui pour 20 000 euros vous tuent quelqu'un. Ils ont arrêté hier ou avant-hier un gamin de moins de 20 ans à qui potentiellement on va pouvoir reprocher 9 assassinats.
Oui.
Donc,
on a eu un de 18 ans il y a quelques semaines.
Il a dû toucher
encore,
pour ça 200 ou 250 000 euros. Oui. Ça veut dire que le mal est profond, que la drogue a pris une place à Marseille qui est considérable. Donc le combat va durer très, 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 très longtemps. Mais je pense qu'il faut le mener. Si on abandonne le terrain, les conséquences en sont lourdes.
Benjamin Morel, est-ce que c'est illusoire, comme le dit un peu Jean-Claude Dacier, de penser qu'on va pouvoir lutter comme ça à coup de milliards, certes, de milliards injectés contre une économie parallèle qui s'est mise en place depuis plusieurs décennies déjà?
Ah oui, parce qu'elle aussi, on l'évoquait tout à l'heure, mais elle a des milliards à faire valoir et elle a toute une armée de soldats qui ont des profits dans l'affaire. Donc penser uniquement le cas marseillais apparaît quelque peu illusoire parce que, comme ça a été évoqué, vous pouvez démonter des points de deal. Quand bien même vous arriviez à faire de Marseille un Havre, mais vous n'allez pas stopper le trafic, vous allez le reporter ailleurs. Donc évidemment, il y a des priorités à avoir sur Marseille. Et Emmanuel Macron a compris un certain nombre de choses, notamment, c'était un petit peu évoqué, mais le fait que localement, chaque fois qu'on fait des investissements, ça pose problème parce que les élus locaux ne s'entendent pas entre eux, parce que par ailleurs, vous aviez des détournements d'argent, etc., qui pouvaient poser problème dans les décennies précédentes. Et souvenez-vous, quand Marseille en grand est annoncé, on dénonce une forme de mise sous tutelle de la ville. Mais parfois, à la demande même des élus, parce qu'on voulait vraiment voir produire leurs effets à ces investissements. Donc, en soi, c'est plutôt une bonne considération. Il fallait faire ça pour Marseille. Lier ça au trafic de drogue, je pense que c'est un peu superfétatoire, parce que cette ville qui aujourd'hui est sous-administrée, dans laquelle il y a eu des sous-investissements, ce n'est pas que le trafic de drogue qui est peut-être plus un symptôme en la matière.
On va se projeter un petit peu sur le programme à suivre, parce que demain, en gros... la journée sera consacrée au thème de l'école et de l'hôpital, ce qui va rencontrer un certain nombre de personnels hospitaliers. Et puis mercredi, ce sera un autre point d'orgue de cette visite, ce sera le logement. Et en 2021, dans ce fameux discours dont on a vu des extraits tout à l'heure, il avait évoqué trois urgences, sécuritaires, sociales et sanitaires. Aujourd'hui, on voit, parce que nos équipes sont retournées sur le terrain, que dans les quartiers pauvres de la ville, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est l'exemple qui a été pris, c'est la cité de Maison-Blanche. Regardez ce reportage de Laure Parra.
Cité Maison-Blanche, cinquième copropriété la plus dégradée de France. Sur les murs sont inscrits les prénoms de Mehdi et Pierre, tués à 19 ans. Ici, le lien entre pauvreté, insécurité et trafic de stupes est une réalité. Avec son collectif, Naher se bat pour aider les jeunes, mais quand ils ne trouvent pas de travail...
Ces jeunes de 16 ans, rien qu'un exemple, cet été, ils vont être ici dans le quartier à fondre sous 37 degrés. Ben, soit ils vont rentrer ici au local et rester là à regarder la télé ou à jouer à la PlayStation... Ou soit ils vont vriller comme tous les autres jeunes et ils vont chercher à aller se faire un peu de l'argent droite à gauche. Qui vous recrute à partir de 16 ans ou à partir de 15 ans ou à 14 ans ou à 13 ans, comme j'ai vu dans certains quartiers, et surtout avec des jeunes filles, les réseaux.
Il dénonce le manque de soutien de certains élus locaux. Et les effets de l'acte 1 du plan Marseille en grand se font attendre.
C'est bien beau d'injecter des millions, des milliards, mais les habitants à Marseille, je reprends leurs mots, disent « on entend des milliards, on entend des millions, mais on ne voit rien ». Donc... il faudrait en fait un meilleur suivi. Où va l'argent?
Ses habitants doutent. Le président, en 2021, dans son discours, ne garantissait pas non plus un franc succès.
Bon, on ne va pas se cacher qu'effectivement, avant d'en voir la couleur, c'est toujours pareil. Hein. Le système de l'entonnoir, ça met du temps à arriver jusqu'aux principaux concernés. Mais quand même, Benjamin Morel, il y a plusieurs choses, parce qu'on parle beaucoup de sécurité aujourd'hui, mais il y a... les transports, il s'agit aussi de désengorger et désenclaver certains, certains quartiers qui sont qui n'ont même pas accès à la mer. Enfin, ça faisait partie des ambitions. Pour l'instant, il n'y a pas trop de différences et de changements sur le plan des transports. Bon, enfin, on a vu ce que ça donne avec le Grand Paris Express.
C'est ce que j'allais vous dire. Oui, les transports, ça met du temps. Ouais. Et les usagers parisiens le savent plus que quiconque. Mais évidemment, il y a en effet une volonté de développer les transports. Il y a également toute une politique qui est une politique vis-à-vis de l'emploi, qui marche d'ailleurs pas très bien, parce que là encore, mal coordonné, Carrefour, apprentissage, etc. Tout ça, visiblement, ne produit pas tout à fait les résultats escomptés pour l'instant. De l'autre côté, il y a un gros volet éducation. Et ce volet éducation, eh ben, il implique des rénovations qui prennent du retard. Là encore, il y a un manque de prévisibilité. Et puis également des volontés de mettre en place des systèmes innovants, notamment en termes d'approche pédagogique, qui interrogent. Parce que pour Emmanuel Macron, il y a trois enjeux. Il y a un enjeu auquel, à mon avis, il ne croit pas, c'est reconquérir cette ville, qui est une peine perdue pour le macronisme, parce que c'est une ville qui vole plutôt Le Pen ou Mélenchon. L'autre aspect, ça peut éventuellement eh bien, donner le gage aux élus locaux et arriver à donner du sens à sa politique. Emmanuel Macron n'a pas d'élus locaux. Et donc, en règle générale, il tente de se rapprocher des élus locaux en donnant des avantages au territoire, etc. Là, on a vu que c'était perdu pour Benoît Payan, mais ce n'était pas si évident il y a deux ans. Et donc, il y a quand même quelque chose à envisager, y compris aujourd'hui, dans leur rapport difficile. Le dernier point, c'est de faire de Marseille une forme de laboratoire de ce que serait le macronisme pour la France. Pour l'instant, on voit que ce n'est pas gagné.
Malgré son attachement à cette ville.
Il faut voir d'où vient Marseille. Hein. Le macronisme prendra-t-il, la greffe prendra-t-il à Marseille?
Mais il a réussi à ramener Muselier dans son giron quand même.
Nous verrons, effectivement, Muselier s'est rapproché d'autres. Mais il faut quand même, il y a quelques années encore, 10 ans, 15 ans, peut-être moins, la CGT tenait le port de Marseille, faisait absolument ce qu'il voulait. D'ailleurs, le port de Marseille a été mort pendant 20-25 ans, c'est la CGT, indépendamment même de la Confédération à Paris, qui gouvernait. Et pour les autres activités, les éboueurs, mais pas seulement, toute la fonction publique marseillaise, qui croyez-vous qui la commandait? Force ouvrière. Vous aviez ces deux forces, ces deux grands patrons, j'étais encore président à Marseille, vous aviez le patron de FO, une espèce de dieu vivant, et la CGT, on la voyait moins, mais elle contrôlait.
C'est quand même la ville de Gaston Defferre.
Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ben c'est, voilà, moi je vais pas décerner les bons et les mauvais points aux responsables politiques qui se sont succédés depuis la guerre. Marseille était une ville totalement originale, sinistrée si l'on veut, très particulière pour d'autres. Le football réunifiait tout le monde, ça tombait bien quand ça marchait bien, mais honnêtement, c'est une ville compliquée, plus que compliquée. On va voir ce que va donner le plan 2 de Macron, l'argent qu'il va y mettre, et les résultats. On les verra peut-être 6 mois, 8 mois, 1 an. Mais ce combat contre la drogue, il faut le mener. Ou sinon, on laisse tomber, on laisse filer, on verra bien ce que ça donne.
Élodie, un petit mot de politique. Puisqu'on parle de politique, on a lu depuis ce matin que de nombreux ministres avaient essayé de se mettre sur les rangs et de se placer lors de ce voyage. Parce qu'il y en a un certain nombre, on va peut-être parler d'éducation dans un instant, mais il y en a un certain nombre qui sont sur la sellette. Parmi lesquels, c'est pas un mystère, Pape Ndiaye. Est-ce que, bon, lui, il est du voyage, hein, parce que c'est un peu l'incontournable. Mais est-ce que c'est vraiment aussi ce genre de déplacement l'occasion de tenter de marquer des points où la ficelle paraît un peu trop grosse?
Bah, les deux, en fait, la ficelle est grosse, mais je pense que face au désespoir, parfois on tente des choses qui ne servent peut-être pas forcément à grand-chose. En l'occurrence, Pape Ndiaye est accompagné déjà, puisqu'on le citait, effectivement, il fait partie des noms des personnes qui seraient sans doute remplacées. Il a déjà accompagné Emmanuel Macron en déplacement à Marseille il y a plusieurs mois. Justement, je suivais ce déplacement et on voyait Emmanuel Macron faire toutes les annonces et Pape Ndiaye se dépatouiller avec en fait le reste des questions qui sont en général les plus techniques et pas forcément celles qu'on reprend. C'est vrai que c'est un contexte particulier. Autour de lui, on a à la fois un Gérald Darmanin qui soit du voyage ou pas. Alors c'est logique qu'il en fasse partie, mais même s'il n'était pas venu, même
s'il serait reconduit.
Évidemment, il n'y a pas de sujet, il aurait pu avoir piscine ce jour-là, on lui aurait pardonné. Et c'est vrai qu'il y a une tentative de certains ministres de dire « il faut qu'on me voie ». Mais attention, parce que sur ce genre de déplacement, c'est pas là où on entend et où on voit beaucoup les ministres. Donc pour, par exemple, un Pape Ndiaye qu'on dit trop en retrait, trop effacé, être vu à côté du président de la République sans parler, c'est pas non plus finalement la meilleure stratégie pour sauver sa peau. Et de toute façon, c'est honnêtement pas un déplacement ou deux ou trois. Je pense qu'un certain nombre de décisions sont déjà prises. On ne sait pas quand ça tombera, mais certains sont vraiment sur la sellette et depuis en réalité plusieurs mois déjà.
Alors ce qui est intéressant, Benjamin Morel, on va juste faire une petite incise politique et puis après on reviendra à d'autres thèmes, c'est que
La semaine dernière, l'idée du remaniement immédiat a semblé un petit peu reléguée au calendrier grec, hein, quand même. On disait, bon, c'est pas... Et puis là, ça revient un petit peu dans le discours, dans les...
Oui, alors il faut être extrêmement prudent. Il y a quelques prudents. Présentis déjà. Il faut être extrêmement prudent.
Vous n'y croyez pas, vous, à la fin des 100 jours, là ? Qui sonnerait comme un coup près pour Elisabeth Borne ?
Quel intérêt ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel Premier ministre capable de recomposer une coalition large ? LR, mais en fait, LR est explosé façon puzzle, donc ce ne serait pas réellement un partenaire fiable. Par ailleurs, LR ne bougera pas avant les sénatoriales. Donc, de toute façon, le problème essentiel du gouvernement, on l'a un peu oublié, parce que, évidemment, on focalise sur des choses, mais le principal problème pour Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y a pas de majorité parlementaire. Et, oui. Et donc, l'objectif d'un Premier ministre aujourd'hui est d'arriver à composer des coalitions suffisamment larges pour au moins faire passer de façon sûre et sans les dénaturer la plupart des textes. Aujourd'hui, il n'a pas réellement ni de partenaire, ni de candidat tout à fait idoine. Donc on peut avoir un remaniement technique, c'est pas exclu, on peut aller chercher quelques ministres, se débarrasser de ceux qui sont aujourd'hui les plus embêtants ou qui ont très très envie de partir, mais un vrai choc politique à la fin des 100 jours, en plein été, sans vrai partenaire, quel intérêt ?
Donc vous, la voyez rester au-delà de la période estivale au moins.
On peut imaginer quelque chose peut-être après les sénatoriales.
Voilà.
On se demande, quand on voit le président de la République 3 jours à Marseille, on se demande si c'est si important que cela de changer le Premier ministre. Les ministres, on ne sait pas où ils sont. Il y en a là, 7-8.
Mais oui, il y en a.
Je ne les vois pas, mais ils sont là.
Darmanin, Dupond-Moretti, Papendiaï, ministre de la Culture, Santé, ils sont 7-8.
On a vu Dupond-Moretti il y a une demi-seconde. Mais bon, c'est le président, évidemment. On est sous la Ve République. Et la Première ministre, Mme Borne, que je trouve tout à fait sympathique, et qui est une technicienne remarquable sans doute, femme de courage, néanmoins n'a aucun sens. Enfin, non. A du mal à exister politiquement. Donc c'est le nouveau, au fond, c'est le nouveau tandem de la Ve République qui a commencé avec un De Gaulle-Debré, où c'était clairement Debré qui était au boulot pendant que De Gaulle réfléchissait à l'avenir du monde. Au jour d'aujourd'hui, tout ça est complètement renversé. Et depuis Sarkozy, et même Chirac, on peut encore faire un petit bémol. Mais là, c'est complètement renversé. Il y a un président qui décide à peu près de tout, et la Première ministre et les ministres sont censés suivre comme ils le peuvent et essayer de mettre en musique les décisions qui sont annoncées. Voilà, bon, c'est comme ça, et puis ça ne va pas changer demain. Donc on change à Matignon, il me semble que les candidats sont peu nombreux, parce que pour occuper ce rôle, il est normal qu'il n'y ait pas beaucoup,
Il y en a beaucoup de candidats.
Donc au fond, moi, on change le Premier ministre Matignon un jour ou l'autre, on verra bien. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le président de la République, son action et les chances. C'est l'avenir de la Macronie telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui. Il a à la fois un maire de gauche et puis il a des alliés de droite dans la ville. Il a beaucoup d'ambition pour cette ville qu'il adore, semble-t-il, football compris. Bon, on verra bien.
Quand même pas prendre la tête du club en plus.
Non, parce que on ne sait jamais. Il peut peut-être nous annoncer un petit quelque chose. Je n'y crois pas trop, mais bon, on verra bien. C'est la donne de la Ve République au jour d'aujourd'hui.
Le régime hyper présidentiel. Merci.
Ben oui, on est dans régime hyper
présidentiel. On va s'interrompre quelques secondes et on reviendra, je vous promets, pour parler de cette audience devant le Conseil d'État pour celle qu'on appelle le collectif des hijabeuses, c'est-à-dire que ces femmes qui veulent porter le voile dans les compétitions. On rappelle qu'en France, la FFF l'interdit, mais dans les instances internationales, on pense évidemment à la FIFA qui, elle, l'autorise. Donc elle souhaite aussi s'appuyer là-dessus pour tenter de faire vaciller le Conseil d'État. Vous nous direz comment ça marche ? Le rôle du rapporteur, les recommandations suivies ? On compte sur vous, Benjamin.
Allons-y.
À tout à l'heure. Nous sommes de retour. Le débat reprendra juste après la Minute Info. Elle est signée Somaïa Labidi. À nouveau, rebonjour.
Football, le Conseil d'État examine le cas du port du hijab sur le terrain. L'audience sur la requête des hijabeuses, ce collectif de jeunes footballeuses qui militent pour le droit de jouer voilé en compétition, a lieu aujourd'hui. La décision qui doit être rendue dans 2 semaines devrait faire date. Le partage de la valeur dans les entreprises débattu à l'Assemblée. Le projet de loi promet de nouveaux bras de fer sur les super profits et les salaires. Après la page des retraites, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, retrouve l'hémicycle pour défendre ce texte. Un texte fidèle à l'accord conclu en février. 4 syndicats sur 5 l'avaient signé. Et puis, première apparition de Vladimir Poutine depuis la fin de la révolte de la milice Wagner. Le chef du Kremlin a été aperçu dans une vidéo diffusée samedi soir dans laquelle il s'adresse à un forum consacré à la jeunesse et l'industrie. En revanche, pas un mot sur la mutinerie avortée et impossible de déterminer où et quand les images ont été enregistrées.
Merci beaucoup, toujours avec nos invités, pour parler de cette audience devant le Conseil d'État en début d'après-midi à la demande d'un collectif de footballeuses qui veulent pouvoir jouer voilées en compétition. Je vous rappelle que c'est une pratique qu'interdit jusqu'ici la Fédération de foot. Bonjour Noémie Schulz, vous avez assisté à l'audience et d'ailleurs vous avez même rencontré les requérantes.
Oui, certaines membres de ce collectif de hijabeuses sont venues assister à l'audience, ces jeunes femmes qui portent le voile et qui effectivement demandent à pouvoir participer à des compétitions tout en portant le voile, ce que leur refuse la Fédération française de football. C'est l'objet donc de ce recours devant le Conseil d'État. C'est le rapporteur public du Conseil d'État qui vient donc de rendre un avis à l'issue de la lecture de son rapport qui a duré un peu moins d'une heure. Et ce rapporteur, eh bien, il demande aux magistrats du Conseil d'État de lever l'interdiction de porter le voile lors des compétitions sportives. Alors il a évidemment donné toute une série d'arguments pour justifier cette demande. Il a pris le soin notamment de faire la différence entre des joueuses qui seraient sélectionnées en équipe de France et celles qui jouent dans les clubs locaux. Ce sont de ces joueuses-là dont il est question. Il dit que les équipes nationales remplissent une mission d'intérêt général et que donc les joueurs qui participent au match de l'équipe de France sont tenus, comme les agents de la Fédération française de football, de s'abstenir de manifester leur appartenance religieuse. Ça, c'est pour effectivement les joueurs ou les joueuses d'une équipe nationale. Mais c'est différent pour les joueuses des autres équipes qui sont des usagères du service public. Et là, l'exigence de neutralité lui semble peu en phase avec la réalité sociologique du sport, en particulier avec le football. Il a pris l'exemple de Cerclin Club de foot, dont les drapeaux sont ornés par exemple de la Croix de Malte pour la JOCR, de nombreux clubs qui affichent aussi un signe religieux. Il dit qu'au niveau individuel, de nouveaux joueurs ont des tatouages explicites ou expriment à travers un geste de prière leur appartenance religieuse en rentrant sur le terrain. Toute une démonstration, voilà, qui a duré un peu moins d'une heure. Il a conclu en disant que nous pensons que valider l'interdiction marquerait un infléchissement important de votre jurisprudence. Or, il y a le droit pour tout individu de choisir et d'exprimer librement la liberté qui dirigera sa vie. Évidemment, à l'issue de cette audience, l'avocate du collectif des hijabeuses et les joueuses ont fait part de leur satisfaction, même si il ne s'agit bien sûr que d'un avis et non pas de la décision du Conseil d'État. Je vous propose d'écouter Founé, la présidente du collectif.
Il y a des femmes qui sont encore exclues des terrains puisqu'elles portent un voile. Effectivement, c'est incompréhensible pour nous puisque, comme je le dis, on est des joueuses de football. À la fin de la journée, tout ce qu'on veut, c'est jouer au football et on nous met dans des carcans, en fait. On nous enferme, on nous dit, vous êtes des femmes, vous êtes soumises, vous êtes... Mais en fait, c'est une question de droit des femmes et de justice. Et aujourd'hui, on empêche les femmes de disposer de leur corps, de disposer d'elles-mêmes. Et c'est ça, le problème.
Voilà, ces joueuses qui maintenant attendent la décision du Conseil d'État, elles devraient être rendues dans un délai de 2 à 3 semaines. Une décision qui, bien sûr, fera jurisprudence, puisque d'autres fédérations, comme la Fédération française de basket, elles aussi réfléchissent à la possibilité d'interdire le port du voile en compétition.
Merci beaucoup, merci, c'était très clair. Noémie Schulz, c'est bien sûr rendez-vous dans cette quinzaine pour le rendu de la décision. Alors, Benjamin Morel, j'ai cru comprendre, vous avez entré un petit peu dans le détail, dans la matière, que le rapporteur, quand même, dont elle vient de nous parler de l'avis, lui, il est favorable à la levée de l'interdiction dans certains cas, que les magistrats, dans 90% des cas, suivaient quand même l'avis du rapporteur.
Oui, c'est-à-dire qu'en règle générale, le rapporteur est celui qui, au sein du Conseil d'État ou au sein d'une juridiction administrative, va être celui qui va le plus travailler le texte. Et bien évidemment, il ne décide pas tout seul. Et donc ensuite, il a à convaincre ses collègues qui vont se prononcer. Mais comme c'est lui qui a suivi le texte, qui l'a travaillé, qui en règle générale est apprécié comme étant le spécialiste du sujet, sauf à vraiment ce qu'ils disent quelque chose qui peut poser problème. Et sur des arrêts comme ça, c'est toujours possible. Mais en règle générale, il est en effet suivi.
D'accord. Ça ne vous paraît pas absolument incroyable ou lunaire que l'avis soit favorable ?
Au risque de choquer beaucoup. D'un point de vue juridique, ce n'est pas incohérent. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la laïcité, c'est quoi ? La laïcité, c'est la neutralité du service public. Autrement dit, si je représente l'État, si je suis un agent de l'État, par exemple en tant qu'enseignant ou en tant que représentant dans le cadre d'un service public, contrôleur, etc., je n'ai pas à porter de signe religieux ostentatoire. J'incarne, je suis, dans la fonction que j'occupe, le représentant de l'État. Mais cette laïcité, elle ne s'applique pas aux usagers du service public. La personne qui prend le train, la personne qui va justement venir dans le cadre d'un enseignement à l'université, c'est un usager. Il n'y a qu'une exception. C'est la loi de 2004 parce qu'on considère que les élèves, étant mineurs, étant dans un cadre où justement l'objectif est de les émanciper, eh bien, ne doivent pas justement porter ce type de signe. Mais parce qu'ils sont mineurs à l'université, par exemple, vous pouvez porter le voile, etc.
Parce qu'ils ne peuvent pas encore exercer leur libre arbitre.
Exactement. Ouais. Et donc là, on est face à une fédération, Fédération Française de Football, qui agit en délégation de service public. Et donc, elle organise les compétitions par délégation de l'État. Si demain, vous avez un arbitre qui arrive voilé et qui représente la fédération, ça pose problème. Mais le joueur, lui, a priori, ça demeure un usager. Et donc, le fait qu'il soit contraint de ne pas porter le voile, en soi, ça apparaîtrait relativement étrange au regard de cette vision qu'on a de la laïcité depuis 1905.
Je comprends d'un point de vue juridique, mais c'est aussi pour ça qu'on fait un distinguo entre joueurs, ce qu'elle expliquait très bien d'ailleurs Noémie,
exactement,
entre joueurs de premier plan qui représentent l'image et l'identité nationale.
Là, vous représentez quelque chose au sein d'une équipe qui, en effet, peut beaucoup plus vous rapprocher d'une forme de mission de service public, même si ça se discute, alors que pour un club...
Benjamin,
ça vous paraît cohérent ou ça vous choque?
Dans un match de football, le port du voile, je ne sais pas ce que ça ajoute dans la pratique du sport.
Mais rien.
Rien.
Mais ce n'est pas l'objet.
Donc, si ces jeunes femmes souhaitent, exigent, veulent, sinon elles ne jouent pas, mettre un voile, c'est qu'elles veulent envoyer un message, clairement, de leur appartenance, mais... de leur collectif, de leur pratique.
Mais vous posez...
Donc, cher ami...
Pour elles, c'est qui elles sont, en fait. Elles s'envisagent
comme
ça.
Jamais...
Parce qu'elles le portent dans la vie de tous les jours.
Même pour une tête, ce hijab, il faut rappeler le hijab quand même, ça ne masque évidemment pas le visage. C'est juste, ça enserre...
Ça, serait puni par la loi.
Ouais, bien sûr.
On a...
Ça enserre le visage. Mais ça n'a aucun intérêt, ça peut même être un handicap pour eux. Donner une tête sur un corner ou sur un coup de pied arrêté, ça peut être utile. Donc si on veut absolument que ces jeunes femmes mettent un hijab, c'est que voilà, elles veulent dire voilà ce que nous sommes. Et on vous fait un bras d'honneur, parce que si vous ne voulez pas de notre hijab, on ne rentre pas sur le terrain. Ça pose un vrai problème.
Est-ce que ce serait une avancée sur le plan politique, quand même?
Évidemment, ça sera salué comme tel.
Évidemment, souvenez-vous du débat qu'on avait sur les burkinis. Le burkini, comment est-ce qu'on commence à parvenir à l'interdire au début? Pour des raisons sanitaires. Ce n'est pas parce que justement, laïcité, etc., on arrive à trouver des façons détournées d'interdire le burkini, parce que usagers du service public, oui, elles veulent envoyer un message. Oui, ça c'est évident. Mais a-t-on le droit de leur interdire de l'exprimer? En droit, la réponse est non. Si elles veulent envoyer un message politique...
Donc en fait, il faudrait changer le droit.
Elles peuvent. On rentre dans quelque chose qui est autre chose que la laïcité à ce moment-là.
Pour ceux qui veulent...
Parce que le problème, c'est où fixe-t-on la limite? C'est-à-dire, est-ce que l'usager du service public qui est un sportif doit à tout prix être neutre et n'exprimer aucune opinion? Peut-être, mais c'est compliqué. Jusqu'où on s'arrête? Est-ce qu'il y a des opinions?
Ça peut poser...
Vous voyez qu'on ouvre une porte,
Benjamin, ça peut...
On ouvre ensuite une porte qui peut interroger. Et je suis d'accord avec vous. Il y a très très clairement aujourd'hui une volonté de mise en visibilité.
C'est
une mise en visibilité politique. Et elle pose problème, cette mise en visibilité
politique. Mais qui sait se servir de tous les leviers juridiques
exactement.
À sa disposition.
Et on en vient toujours là, c'est-à-dire qu'on est face à des groupes qui comprennent extrêmement bien le droit et qui comprennent également les failles de notre droit. Ce droit, il est censé garantir nos libertés, il le garantit. Le problème, évidemment, c'est que mal utilisé, il peut se retourner contre nous.
Et puis quand on est fédération, non plus française en un mot, mais fédération internationale, qu'on organise des championnats, des Coupes du Monde, que voudra, notamment avec l'accueil de certains pays musulmans, comment vous faites? Parce que là...
Merci.
Le port du hijab serait pas...
Allez, on va s'interrompre parce qu'on a d'autres invités qui nous attendent.
Compliqué.
Et notamment pour revenir à Marseille, on retrouvera notre équipe lors de cette déambulation d'Emmanuel Macron dans la cité des Campanules, au contact des familles qui luttent, vous savez, contre le trafic de drogue. À tout de suite. Nous sommes de retour et on va se rendre à Marseille à nouveau avec, vous le savez, cette visite d'Emmanuel Macron venu évaluer l'état d'avancement des travaux de Marseille en grand. Il a prévu plusieurs visites à son agenda aujourd'hui, demain et donc
mercredi qui clôturera cette séquence. Bonjour Laure Parra, vous êtes dans la délégation de journalistes. Le président qui est en train en ce moment de rencontrer des familles, on l'a dit tout à l'heure, du côté des campanules, des familles de victimes, avant de se rendre là où vous êtes, dans le quartier de la Busserine. Que va-t-il venir faire à la Busserine ?
Alors juste un petit mot hein, sur ce qui est en train de se dérouler au niveau de la cité des campagnes. Vous savez, cette cité, il n'a pas choisi par hasard puisque c'est une cité où les habitants se sont mobilisés pour faire fuir un point de deal au niveau du bâtiment H. Alors ils ont réussi, ces habitants, à stopper ce point de deal. Il n'empêche que le point de deal s'est installé ailleurs, ont-ils précisé. Et en ce moment, il est en train de rencontrer dans une petite salle 6 personnes, des personnes qui ont perdu des proches, des assassinats, disent-ils, liés au trafic de stupéfiants. Une maman a commencé à lui parler, lui a notamment dit: je vous remercie de ne plus dire règlement de compte, mais assassinat. Mon fils a été assassiné. Ce que veulent ces mamans, c'est que le président prenne la dimension de ce qu'est la situation des familles lorsqu'elles se retrouvent confrontées à ces jeunes qui tombent sous les balles à cause du trafic de stupéfiants. Alors l'accueil a été chaleureux dans la cité des Campanules. Comment ça va être ici? Ce que je peux vous dire, c'est que les habitants que vous voyez avec les images de Olivier Gangloff sont des habitants qui aimeraient rentrer dans le gymnase qui a été mis à disposition, un gymnase où le président va échanger avec 400 personnes sélectionnées par la préfecture. Tout à l'heure, j'entendais une maman qui disait: mais moi aussi, je veux y aller, moi aussi, je veux échanger avec le président, je ne suis pas sélectionnée alors qu'il vient dans mon quartier. Alors on l'attend ici dans la cité de la Busserine, une cité qu'il va visiter alors un petit peu juste avant, puisqu'une partie de la cité est en phase de réhabilitation. Des travaux sont en cours, notamment au niveau des façades. Juste pour vous planter le contexte, la cité de la Busserine, c'est 2500 habitants. Le dernier blessé, à cause du trafic de stupéfiants, c'était le 18 juin dernier. Il faut savoir que le 25 avril, un homme de 63 ans est mort ici. Il n'avait rien à voir avec le trafic de stupéfiants. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment.
Merci beaucoup. Merci Laure Parra. Et on se tournera bien sûr vers vous dès lors que le président arrive dans ce quartier. Un autre invité, c'est Franck Alizio qui est avec nous en direct. Bonjour Franck Alizio, je rappelle que vous êtes député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. Alors, 15 milliards d'euros, ça c'est conséquent. La visite d'Emmanuel Macron, sa sortie effectivement d'annonce. On reviendra tout à l'heure sur les amendes forfaitaires, mais bon, on va faire un état des lieux des forces en présence. On prévoit 700 places de prison, en gros, pour le site Beaumet 3, c'est en construction. Une super CRS, 330 policiers, un commissariat. Est-ce que là, vous vous dites, ah, enfin, la présidence de la République met le paquet, a compris l'ampleur du problème? Ou ça ne vous convainc pas franchement?
Mais comme vous dites, on prévoit. C'est-à-dire qu'on nous expliquait les premiers éléments de langage de l'Élysée, c'était il y a déjà eu 5 milliards investis, plus 15 milliards si on conjugue avec les collectivités locales. Le problème, c'est que d'abord, cet argent, il sort pas de la poche d'Emmanuel Macron, je suis désolé, il sort de la poche des contribuables. Donc le contribuable, s'il investit 5 milliards d'euros dans Marseille et sa métropole, tant mieux, mais pour quelle efficacité? Ça fait 2 ans que le plan Marseille en grand est lancé. Pour l'instant, on a Marseille en grand banditisme. Le président, ça fait 8 fois depuis le début de son mandat qu'il vient, il est à sa 6e année de mandat. Et maintenant, on nous explique que tout va changer parce qu'on est dans une séquence de com et qu'il faut dire que tout va changer. Mais en réalité, rien ne change et on est, et il y a quelque chose. Enfin, moi, je pense que sur le fond, il y a un problème, c'est que Emmanuel Macron fantasme Marseille comme une ville monde, comme une ville cosmopolite, remplie de citoyens du monde. Bon, et les Marseillais vivent la réalité. Voilà. Et à la réalité, oui, pardon.
Non, mais allez-y, restez avec nous parce que c'est intéressant ce que vous dites. Ça fait écho un petit peu à ce qu'on disait avec Benjamin Morel et Jean-Claude Dacier tout à l'heure, à savoir que finalement Emmanuel Macron c'est un peu un libéral libertaire. Hein. Il y a cette idée qu'il parle de ville-monde. Il veut comme ça promouvoir une forme de cosmopolite.
Alors
de
souvent Macron varie, vous savez. Hein. Mais il est vrai que il y avait un discours en 2017, je crois que c'est justement le discours de Marseille, où il considérait que la culture française n'existait pas, que nous venions tous d'origines différentes et que nous définissions un peu par ça. Ensuite, il y a eu des discours très différents. Le discours des Mureaux est totalement obsidional par rapport à ça. Mais malgré tout, il y a en effet, dans l'Emmanuel Macron de 2017, cette idée-là. Il faut normaliser la France dans une société plutôt multiculturelle à l'américaine. Et c'est vrai que là-dessus, Marseille apparaît comme étant assez à l'image de tout ça, en tout cas assez symbolique et symptomatique
en tout cas,
de cette société-là.
D'Emmanuel Macron.
Et donc, on est dans un plan qui est un plan d'expérimentation avec une vision très libérale. On pourrait revenir de l'école, hein, mais choisissez votre projet pédagogique, vos enseignants,
on va lui demander,
etc.
À Franck Caïzo ce qu'il en pense.
Fondamentalement, est-ce que c'est vraiment structurellement problématique? Je le pense. Et de l'autre côté, une vision de la société qui, en effet, eh ben, est plutôt celle-ci.
Outre, et c'est vrai Franck Caïzo, outre la sécurité, il y a effectivement cette idée de l'école de demain avec une sorte de programme à la carte qui est laissé aussi à la discrétion des chefs d'établissement. Fausse bonne idée pour vous?
Non mais enfin, fausse bonne idée. Ça peut se discuter, donner plus de liberté, plus de responsabilité aux enseignants, aux chefs d'établissement, aux parents aussi, parce que les parents doivent faire partie de l'équation. Mais c'est vrai que je suis désolé d'être obsessionnel là-dessus, mais la priorité des priorités, c'est la sécurité, parce que si vous n'avez pas la sécurité dans les rues, si vous avez peur de prendre une balle perdue, ce qui est le cas aujourd'hui à Marseille, dans certains quartiers et pas que certains, bien là, l'école, les investissements en matière culturelle, sportive, éducative, ça ne servira à rien. Moi, j'ai l'impression que le président voit Marseille et notre territoire comme une Seine-Saint-Denis avec le soleil. Bah, c'est pas notre objectif d'être la Seine-Saint-Denis avec le soleil, voilà. Et puis après, je suis désolé d'être horriblement pragmatique, mais quand on investit de l'argent, il faut que ce soit efficace, voilà. Et aujourd'hui, l'efficacité, ben vous l'avez bien en matière de sécurité, c'est tout l'inverse. Depuis le début du plan, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, les choses empirent. Donc, nous voulons des résultats, voilà. Nous voulons, par exemple, un état d'urgence dans les quartiers nord, là où on a ce qui se fait de pire en matière de règlement de compte, d'assassinat, de violence, voilà. Il faut maintenant changer complètement, faire une rupture philosophique et mettre véritablement de moyens et changer les méthodes.
Alors, dernière question, puisqu'on va évidemment parler du trafic de drogue, dont on sait qu'il prospère, hélas, à Marseille. Comment avez-vous réagi quand il a accordé cette interview à La Provence? D'ailleurs, il l'a développé un petit peu tout à l'heure lors de sa prise de parole, où il dit, ben voilà, les amendes forfaitaires, maintenant, on pourra procéder à un paiement immédiat. On va mettre des agents avec des terminaux de paiement. On pourra donner du cash aussi, vous vous dites, mais... C'est complètement irréaliste, surréaliste. Je ne sais pas quel a été le premier adjectif là qui vous est venu.
Alors dans cette histoire, il y a le pire et le meilleur. Le meilleur, il faut le prendre comme on demande toujours la tolérance zéro. Là, pour le coup, il y aura une forme d'efficacité, de rapidité dans sanction et comment dire exécution de la sanction. Après, évidemment, c'est la faisabilité. On va demander donc à nos policiers de faire le boulot de la justice, si je comprends bien, de manière immédiate. Enfin, vous imaginez sur le terrain, avec un paiement, avec un terminal, le policier pour demander de... Enfin, j'émets de vrais doutes sur l'efficacité. Maintenant, en théorie, ça donne de l'immédiateté. Mais je pense que nos policiers ont un petit peu autre chose à faire. Je vous rappelle que, par exemple, à Marseille, on a la moitié de ce qu'il nous faudrait en policiers municipaux. Voilà. On en a 450, il en faudrait 900. On a, un quart de ce qu'il nous faudrait en vidéosurveillance. Voilà. Donc, on est quand même très, très loin d'avoir les moyens nécessaires.
Oui, ça c'est un message qu'il faudra donner à Benoît Payon et non pas à Emmanuel Macron. Enfin, disons qu'ils ne sont pas dans le même. C'est pas le même couloir.
Ils s'entendent bien là, visiblement. Ouais. Donc, voilà.
En tout cas, ça s'est un peu réchauffé. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions cet après-midi et merci à nos invités. C'est tout le temps qui nous restait pour la fin de cette émission 90 Minutes Info. Dans un instant, bien sûr, vous retrouvez Laurence Ferrari pour le début de Punchline et on se retrouve pour la passation. À tout de suite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.